Vous écoutez RTL.
RTL, il est 22h.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir, votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, un lundi studieux pour le gouvernement réuni à Matignon pour un séminaire destiné à mettre en musique les propositions du président Macron énoncées la semaine dernière. Ce soir, on a déjà une idée très claire d'un calendrier bien chargé ces prochains mois. 20 km/h en moins sur le périphérique lyonnais depuis ce matin, soit une vitesse limitée à 70, comme pour le grand frère parisien qui, lui, pourrait passer, tenez-vous bien, très prochainement, à 50 km/h. 28 suicides au sein de la police nationale depuis le 1er janvier. Le ministre de tutelle, Christophe Castaner, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une cellule d'écoute. Suffisant ou pas, notre invité ce soir l'évoquera. Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance, avec nous dans 10 minutes. La météo de mieux en mieux en cette fin d'avril. Et puis à 22h20, comme tous les soirs, dans RTL Grand Soir, votre magazine de l'écho. On parlera tout à l'heure de taux de crédit et de découverte et gestion de châteaux comme celui de Cheverny. Oui, le fameux château de Moulinsart de Tintin et du capitaine Haddock. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Et tout d'abord, l'apparition ce soir du chef de l'État islamique dans une vidéo de propagande sur les différents réseaux sociaux. Aboubakar al-Baghdadi, c'est la première fois qu'il se montre depuis 5 ans, brise du génie, alors qu'il avait été donné mort hein, à plusieurs reprises.
Absolument, l'autoproclamé calife apparaît assis en tailleur, vêtu de noir, la tête couverte d'un foulard. À ses côtés, une kalachnikov, barbe teinte. Aboubakar al-Baghdadi s'adresse à 3 hommes dont le visage est masqué. On ne connaît pas précisément la date à laquelle a été tournée la vidéo, mais le fondateur de l'État islamique fait référence à la fin de la bataille de Baghouz à la frontière irako-syrienne. Il parle des frères Klein, ces deux Français abattus par une frappe américaine au mois de février. Combatif, il revient sur les attentats au Sri Lanka, sur la perte de pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie et d'Omar el-Béchir au Soudan. Et puis sur la victoire de Benjamin Netanyahou en Israël. Ces événements se sont tous produits ces dernières semaines, ce qui tend donc à montrer, et c'est l'objectif d'El-Baghdadi, que malgré la défaite, malgré la retraite militaire, il est toujours en vie. Lui, l'homme le plus recherché par la coalition internationale, lui qui en 2017 avait été annoncé mort par les Russes. Cela faisait 5 ans qu'Aboubakar el-Baghdadi n'était pas apparu dans une vidéo. La dernière fois, en 2014, il proclamait le califat dans la mosquée Al-Nouri à Mossoul.
Merci beaucoup, Brice Dugénie, service étranger d'RTL. Qui va faire quoi, quand et comment? C'était l'objectif du séminaire du jour d'après conférence de presse et d'annonce présidentielle d'Emmanuel Macron jeudi dernier. Autour du Premier ministre, le gouvernement a donc planché toute la journée sur les pistes présidentielles pour apporter des réponses très claires à la crise du moment. Et ce, d'ici l'été, notamment en ce qui concerne la décentralisation.
Nous voulons faire en sorte que les services publics qui ne sont portés ni par l'État ni par les collectivités puissent être véritablement plus proche de nos concitoyens. L'idée, c'est de faire en sorte que dans chaque canton, il y ait un bouquet de services complets, accessibles, pour que partout sur le territoire national, on se trouve à proximité des services publics et des services publics de qualité. Nous évoquerons également la fin de l'ensemble des doublons qui existent encore entre les services de l'État et les collectivités territoriales. Je pense aussi à la façon dont nous allons compenser la disparition de la taxe d'habitation pour les collectivités territoriales. Nous devons évoquer avec les collectivités territoriales les modalités de cette compensation, de cette disparition, dès le mois de juin prochain. Nous avancerons au cours du mois de juin sur le statut des maires et la simplification de son travail et de son environnement notamment.
Propos d'Edouard Philippe, le Premier ministre, recueilli par Vincent Serrano à Matignon. Comme prévu, on vient de l'entendre, le calendrier sera chargé. Alors Anaïs Bouissou avec vous ce soir, on va ouvrir nos agendas, on va prendre des notes et on commence déjà à travailler sur les grandes lignes visiblement dès la semaine prochaine et ce jusqu'à l'été, Anaïs.
Oui, c'est une avalanche de réformes à venir dans les 6 prochains mois. Ça commence dès la semaine prochaine où syndicats, patrons, associations seront réunis par le Premier ministre pour parler de l'emploi. Pour le mois de juin, Edouard Philippe a annoncé pêle-mêle la réforme de l'assurance chômage, un éventuel aménagement de la mesure des 80 km/h sur les routes, ou encore les détails des futures baisses d'impôts pour les ménages qui iront de pair avec la fin de certaines niches fiscales côté entreprise. Un mois de juin particulièrement chargé donc, avant un mois de juillet tout aussi embouteillé. Autant vous dire que les parlementaires qui avaient prévu de se reposer cet été ne vont pas avoir beaucoup de vacances. En juillet seront présentés rien de moins que la révision de la Constitution, la présentation d'un projet de loi sur la bioéthique et l'aide aux familles monoparentales pour leur permettre de vraiment toucher leur pension alimentaire. La réforme des retraites sera présentée début septembre, avant la réforme de l'autonomie des personnes âgées, ainsi que la réforme de l'ENA, attendue pour l'automne. À Matignon, on n'hésite pas à parler d'un travail de titan, mais le président a donné ses consignes et il n'est pas question de les remettre en cause.
Merci à vous. Anaïs Bouissou, service économie et sociale d'RTL. On vient de l'entendre, hein, le dossier des 80 km/h va donc être remis à plus tard, on va plancher dessus, mais pendant ce temps-là, on limite, comme à Lyon, où le périphérique lyonnais vient justement de passer à 70 km/h, soit 20 km de moins. 70 km/h, c'est la vitesse aujourd'hui à ne pas dépasser. Vous le savez certainement sur le périphérique parisien également. Mais voilà qu'un groupe d'experts préconise aujourd'hui un petit 50 km/h, pas moins, pas plus, autour de la capitale, Florian Martin.
Oui, c'est une baisse radicale préconisée, 20 km/h en moins. Une mesure simple à mettre en place, ça paraît presque facile. Dans ce rapport, on est allé beaucoup plus loin dans la réflexion. On veut toucher la structure même du périphérique. Sur les 35 km du réseau parisien, on suggère de supprimer des voies de circulation. 3 au lieu de 4 actuellement, 2 seraient réservées aux automobilistes, une privatisée pour les transports en commun. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes seraient interdits. Objectif global, fluidifier le trafic et à long terme, sans doute, réduire les taux de pollution. Des mesures absurdes et inefficaces, selon Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
Ça n'a que très peu d'effet. Quasiment rien sur la pollution. Ça en fait descendre certains, ça en fait monter d'autres, comme le benzène. Aucun effet sur la pollution sonore. On baisse de quelques décibels, mais c'est imperceptible pour l'oreille humaine. C'est quand même fou. On est dans la surenchère politique. Chaque candidat à la ville de Paris, il va de sa petite mesure pour donner l'impression en toute humilité qu'il va sauver la planète.
Et c'est vrai que le périphérique, ce n'est plus qu'une simple question, c'est devenu un enjeu électoral. Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande et candidat à la mairie de Paris, lui est beaucoup plus extrême, il veut tout simplement le supprimer.
Ouais, Florian Martin, l'un de nos spécialistes auto ici à RTL.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
22h07, la reconstitution ce soir du quadruple meurtre des membres de la famille Troadexte il y a 2 ans à Orvault, près de Nantes, en présence d'Hubert Caouissin, l'assassin présumé, ancien ouvrier de l'arsenal de Brest, qui a reconnu les faits. Toute l'importance ce soir de ce retour, justement, sur tous ces faits au domicile des 4 victimes tout à l'heure, avec l'avocate de la famille Troadec, eh bien, Nicolas Bobu a pu faire le point. On va écouter Maître Cécile de Oliveira.
La reconstitution est un moment très important. C'est un acte d'instruction qui va permettre, je le souhaite, de mettre en perspective les versions divergentes et fantaisistes du mis en examen, avec une réalité objective qui est celle des éléments techniques et notamment des éléments objectifs et scientifiques.
On ne sait toujours pas où sont les 4 crânes des victimes.
Le fait qu'on n'ait pas accès aux crânes ne permet pas de dire quoi que ce soit sur l'arme du crime. Et le mis en examen peut continuer à prétendre qu'il a été victime, lui, de la part de Pascal Troadec, qu'il aurait attaqué avec un pied de biche. Cette version, je pense, ne va pas résister aux éléments qui vont être démontrés dans le cadre de la reconstitution.
Reconstitution en cours en ce moment même à Orvault avec Nicolas Bobby pour RTL. C'était Maître Cécile de Oliveira, avocate de la famille Troadec, qui s'exprimait à l'instant. Un nouveau projet d'attentat déjoué ce matin. 4 personnes qui étaient surveillées depuis le mois de février dernier ont été arrêtées en banlieue parisienne. Elles sont soupçonnées, ces 4 personnes, d'avoir prévu une attaque imminente contre des forces de l'ordre. Et parmi elles, un adolescent de 17 ans, déjà connu de la justice. Il avait en effet déjà été condamné à 3 ans de prison pour avoir tenté à l'époque de rejoindre la Syrie. Des forces de police visées par ces projets terroristes, des forces de police bousculées, insultées et touchées en ce moment dans leur fierté et au sein même de leur corporation par une vague de suicides sans précédent depuis le début de l'année. Pas moins, en effet, de 28 policiers, vous le savez, ont mis fin à leur jour aussi. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé ce matin la mise en place d'une cellule alerte prévention suicide qui devrait voir le jour d'ici fin juin. Une cellule censée libérer la parole tout d'abord, comme l'a expliqué Jean-Louis Terra, l'un des 3 psychiatres chargés d'écouter ces forces de l'ordre, à Olivier Bois.
Aller vers quelqu'un qui va très mal, c'est aussi une attitude précise. Il faut avoir un art du dialogue. Il ne faut pas avoir peur d'aborder les questions. D'abord la question de la souffrance, si je ne dors pas depuis plusieurs jours. L'insomnie est le fond d'œil de la crise suicidaire. Deuxièmement, si j'ai changé d'habitude, si j'étais avenant et maintenant renfrogné, si au contraire j'étais dans mon bureau et maintenant je sors. Et puis bien sûr, si je m'enfonce dans la dépression. Et si je suis un homme, ça sera souvent une dépression non pas triste, mais irritable. Je serai énervé, je serai insupportable. Donc l'importance de cette cellule, c'est donner des chances, des bras tendus vers les personnes en détresse pour que le processus de détection et de protection soit vraiment mis en œuvre au niveau de chaque femme et de chaque homme de la police nationale.
Propos recueillis par Olivier Bois pour RTL.
3 minutes pour comprendre.
3 minutes pour comprendre toute l'utilité de cette toute nouvelle cellule. Avec nous ce soir, Stanislas Godon, qui est porte-parole du syndicat de police Alliance. Bonsoir à vous, monsieur. C'est important. Vous saviez que le ministre de l'Intérieur allait prendre ce dossier à bras-le-corps. Il l'a fait. Ça vous suffit ?
Oui, il l'avait annoncé d'ailleurs le 4 avril, notamment lorsqu'il est venu rendre visite à nos collègues à l'hôpital des gardiens de la paix. Il avait annoncé la création de cette cellule. Alors, cette cellule, elle est importante. Personne ne niera le fait qu'une plateforme a 24 avec un psychiatre notamment qui pourra aussi gérer la parole des policiers à condition qu'elle se libère, parce c'est que ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que cela.
Les c'est policiers, un tabou, c'est quoi, c'est une honte de pas s'exprimer?
Les policiers ont du mal à parler de leurs problèmes personnels et de leurs problèmes professionnels. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez de vos problèmes, parfois vous pouvez être mis un peu en marge de votre activité opérationnelle. Et les policiers sont très très attachés à leur métier.
28 suicides quand même depuis le début de l'année, ce qui est beaucoup en 4 mois.
Oui, c'est un chiffre très alarmant en 4 mois, sachant que les périodes les plus noires sont en général en fin d'année, que l'année dernière nous étions à 35 suicides sur la totalité de l'année 2018, et quand on regarde en fait dans le passé, il y a eu 2014 55 suicides, et 2017 51 suicides. Alors en fait, quand on regarde un peu les statistiques sur les suicides, on s'aperçoit que les suicides en fait suivent une période d'activité très intense. 2015, nous sommes frappés par les attentats. Oui. Et là, tous les policiers sont engagés sur tous les fronts. Il y a un sens au métier. Et là, on s'aperçoit que les suicides chutent. Nous sommes encore des cibles. Nous sommes des cibles pour les terroristes. Nous sommes des cibles pour les individus ultra-radicalisés, pour les black blocs, comme on les appelle. Nous sommes des cibles aussi pour les ultra-violents, les délinquants. Parce que lorsque on s'attaque notamment au trafic d'armes, au trafic de stupéfiants, lorsque on lutte contre la délinquance au quotidien aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand on intervient parfois dans des cités sensibles où nous ne sommes pas vraiment très bien accueillis, là aussi nous faisons face à une ultra-violence qui s'est d'ailleurs banalisée.
On comprend mieux, vous avez expliqué toutes ces conditions de vie et de travail qui sont compliquées aujourd'hui, plus l'effet gilet jaune, on l'a vu avec cet insoutenable suicidez-vous qui a été lancé à destination des policiers. On a vu des tags sur des commissariats, sur des mairies aujourd'hui. Vous avez besoin d'aide finalement, en plus de cette cellule. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce soir?
Alors en fait, nous, on dit que la cellule, elle est importante, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut en fait d'abord s'attaquer aux problèmes des policiers à la racine. Les problèmes, c'est, vous l'avez dit, conditions de vie et de travail, suremploi opérationnel, le management participatif, parce que parfois, avec la hiérarchie, c'est un peu compliqué aussi.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, avec les gilets jaunes, on travaille tous les week-ends?
On travaille tous les week-ends.
Trop mobilisé.
Oui, mais attention, pas de lien de cause à effet avec les gilets jaunes, parce que si on regarde les statistiques, en 2014, il n'y avait pas de gilets jaunes, en 2017 non plus, et pourtant, nous avons été frappés par une vague de suicides également très très importante. Et puis, très important, le policier, il est attaqué, accusé de tous les maux. Il est attaqué par des violences physiques, par des violences verbales, par des accusations à tort. Souvent, vous savez, le policier, lui, il a l'impression de bien faire son travail. Il prend parfois des risques. Il ne regarde pas le temps. Parfois, il sacrifie aussi sa vie de famille pour son métier de policier, et quand il entend qu'on l'accuse de tous les maux, de toutes les violences, de toutes les bavures, c'est aussi insoutenable. Et c'est pour ça que là, nous, on demande à ce que le ministre de l'Intérieur, à chaque fois qu'on est accusé à tort, qu'il dépose plainte
tout de suite,
qu'il torde le cou à ces rumeurs
comme
sans fondement.
Fait pour la mairie la dernière fois,
exactement, exactement. Et d'ailleurs, nous, syndicat de police Alliance, à chaque fois que le ministre déposera plainte pour protéger ou attaquer en diffamation notamment ceux qui accusent les policiers, nous nous porterons partie civile.
A-t-on encore envie aujourd'hui d'être policier finalement? Tout ce manque de respect aujourd'hui pour l'uniforme.
Exactement, et c'est pour ça que nous on demande à ce qu'il y ait des sanctions exemplaires contre tous ceux qui s'attaquent aux policiers, et je pense aussi à nos collègues gendarmes d'ailleurs. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'il n'y ait plus d'aménagement de peine. Lorsqu'on jette un pavé de 2 kilos à la tête d'un policier, je suis désolé de le dire, mais c'est 5 à 7 ans d'emprisonnement, et c'est pas des rappels à la loi comme on l'a trop entendu.
Lancer des vélos, la prison avec frapper sursis, un policier comme on l'a
exactement.
Vu.
Exactement, parce que vous savez, le sentiment d'impunité, il a laissé la place à l'impunité. Vous savez, c'est un peu l'histoire de l'outrage qui n'est pas traité. et puis après vous passez à la rébellion, puis après vous passez à la violence envers les agents des forces de sécurité, et puis après on va aller jusqu'où comme ça? On va bientôt tuer un policier?
Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de police Alliance, est avec nous ce soir. Merci de venir jusqu'à nous, ici dans RTL Grand Soir.
Merci à vous.
RTL Grand Soir.
À 22h15, cette fois, à l'étranger, Donald Trump et ses mensonges. On fait les comptes ce soir avec vous, Philippe Corbet. Et on arrive à un total délirant, si on a bien compté, de 10 000 mensonges déjà depuis l'investiture du président il y a 2 ans.
Oui, et ça s'accélère, hein, puisqu'il avait passé la barre des 5 000 en septembre dernier, si on se fie à ce relevé méticuleux du Washington Post. Donc il a autant menti ces 7 derniers mois que pendant la première année et demie de son mandat. Au début, c'était en moyenne 5 mensonges par jour. Aujourd'hui, le rythme est de 23 par jour. Par exemple, la semaine dernière, en 3 jours, 171 propos mensongers, comme celui-ci, tellement grossier qu'il ne fait même plus la une de l'actualité ici. C'était samedi soir, en meeting, dans le Wisconsin, il parlait d'avortement.
The baby is born. The mother meets with the doctor.
Le bébé naît, la mère rencontre le médecin, ils s'occupent du bébé, ils emmaillotent magnifiquement le bébé, ensuite le médecin et la mère déterminent s'ils vont exécuter le bébé.
Ça c'est évidemment un infanticide, pas une interruption volontaire de grossesse, le président dit n'importe quoi. La perversité de ce tsunami de mensonges, c'est que pour beaucoup d'Américains, il est de plus en plus difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux dans le débat public, et c'est cette confusion que recherche le président.
Philippe Corbet, correspondant permanent, bien sûr, aux États-Unis. Les petites histoires dans les salons de beauté, les potins, ce n'est pas chrétien. Déclaration aujourd'hui au Vatican du pape François qui donne des conseils aux spécialistes de la discussion autour des mises en plis et autres jolis coups de ciseaux, sans oublier les discussions des esthéticiennes, deux professions en tout cas jugées trop bavardes par sa sainteté, trop démonstratives visiblement. Comme un malaise au Paris Saint-Germain avec ce nouveau revers samedi dernier en Coupe de France et une défaite au tir au but face à Rennes. Pas inintéressant donc aujourd'hui d'assister à la conférence de presse de l'entraîneur parisien, ce que vous avez fait d'ailleurs cet après-midi, Nicolas Georgerot pour RTL, où tous les sujets ont été abordés, comme les dernières déclarations à chaud des stars parisiennes.
Oui, Neymar a par exemple fustigé samedi soir l'attitude des plus jeunes de l'effectif, pas assez à l'écoute selon lui. Eh bien Thomas Tuchel va dans ce sens, trop dilettante, certains joueurs pas assez investis au quotidien.
Pour moi, il y a des joueurs qui aiment gagner et il y a des joueurs qui détestent perdre. Et c'est une grande différence parce que tout le monde aime gagner, mais seulement quelques joueurs détestent perdre. C'est pas à nous de choisir si un match est plus important qu'un autre. Non, non, c'est pas comme ça.
Les critiques des uns, les reproches des autres, le risque est grand de voir le groupe exploser. L'entraîneur parisien demande surtout de laver le linge sale en famille.
Je préfère qu'on parle entre nous. C'est mieux qu'on fait ça dans le vestiaire.
L'Allemand qui recadre aussi sa star, Neymar, coupable de ce geste, d'avoir porté un coup à un supporter rennais en réponse à des insultes.
Je n'aime pas du tout, c'est pas possible de faire ça. On doit accepter. Si on gagne, c'est plus facile. Si on perd, on doit accepter, on doit monter, respect. C'est pas possible que nous sommes dans une challenge avec un spectateur.
Et l'avenir dans tout ça, son avenir, les prochaines semaines?
Je ne sens pas que mon position est fragile, mais je ne sais pas, je ne suis pas naïf.
Car devant l'ampleur du chantier, la lessive sera conséquente et il a pleinement conscience qu'il peut être concerné.
Et demain, Nicolas Georgerot, on le rappelle, retour sur le terrain pour les Parisiens. Match en retard face à Montpellier dès 19h. La météo, justement, pour les prochaines 24 heures. C'est avec vous, Louis Baudin, bonsoir.
Bonsoir Christophe. Demain, encore plus de soleil qu'aujourd'hui, notamment dans la moitié ouest et dans les régions du sud également. Ça sera du grand soleil toute la journée. Il restera un peu de Mistral et de Tramontane autour du golfe du Lion. En revanche, c'est vrai que le matin, il y aura encore quelques nuages dans le nord-est, tout près de la frontière belge, ou encore entre l'Alsace et la Lorraine. Mais tout ça finira par se dissiper. Et là aussi, en cours d'après-midi, c'est le soleil qui finira par s'imposer avec, c'est vrai, encore quelques passages nuageux. Même chose d'ailleurs autour de la vallée de la Seine. Le tout avec des températures en hausse l'après-midi. Le matin, ça sera encore froid, entre 3 et 6 degrés dans la plupart des régions. Mais l'après-midi, écoutez bien, 17 à 20 degrés au nord comme au sud. Nous revoilà quasiment dans des valeurs de saison, 20 à 23 degrés même près de la Méditerranée.
C'est bien tout ça, merci beaucoup Louis Baudin. Dans un instant, votre magazine de l'écho, puis nous parlerons d'une belle initiative dans 5 minutes, la natation citoyenne.
RTL Grand Soir, la minute du Mag Écho.
La minute conso, c'est avec vous Martial Guillaume, bonsoir.
Bonsoir à tous.
C'est le moment où, jamais, on le sait, de renégocier son prêt immobilier avec, attention, des taux historiquement bas, Martial.
Et oui, on est sur des niveaux qui se maintiennent d'ailleurs au plancher, en moyenne 1,3% sur 15 ans, 1,5% sur 20 ans, 1,7% sur 25 ans. Et quand vous dites que c'est le moment, bah vous avez raison, parce qu'il y a deux périodes où les banques sont particulièrement ouvertes à la renégociation. en ce moment, c'est-à-dire au printemps, et à la rentrée, c'est-à-dire les moments où on déménage massivement. Les clients ne s'y trompent pas, puisque un tiers des prêts immobiliers accordés en ce moment sont liés à des renégociations, justement.
On va parler concrètement. Comment je sais si j'ai intérêt à renégocier, Martial ?
Alors, si vous écoutez votre banquier, jamais. Hein, oui. Puisque les plus
c'est bien
ouverts,
ce qui m'est arrivé, d'accord.
Voilà, les plus ouverts à vous obtenir des taux records, ce sont les concurrents de votre banque, parce que ça coûte très cher d'acquérir un nouveau client. Et les banques savent qu'en vous octroyant un prêt immobilier, elles vont récupérer aussi tous vos autres comptes. Pour que le prêt soit intéressant à renégocier, il faut en gros un point d'écart entre votre taux et ce qui se négocie aujourd'hui. Donc si on fait clair, si vous avez un taux supérieur à 2,3% sur 15 ans, allez-y. Ensuite, il faut aussi avoir plus de 70 000 euros à rembourser, sinon ce n'est pas très intéressant. Et puis surtout, il faut être dans le premier tiers du prêt, dans les 5 ans pour un crédit sur 15 ans, parce qu'on rembourse d'abord les intérêts. Enfin, autre moyen de faire des économies, on l'oublie souvent, eh bien, il y a la renégociation tous les ans qui est désormais possible de l'assurance emprunteur. C'est ce qui est souscrit en même temps que le prêt.
Et comme certains sont encore en vacances, profitez-en pour regarder vos petits papiers ce soir en rentrant à la maison. Merci à vous, Martial Youm.
RTL Grand Soir, le mag de l'écho.
RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'écho, c'est avec vous Jean-Baptiste Giraud, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Vous nous présentez notre invité ce soir.
Notre invité ce soir, c'est Charles-Antoine de Vibray, le propriétaire du château de Cheverny.
Ah oui.
Bonsoir.
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 Tout de suite, vous avez vu, on essaie de se mettre au niveau.
Bienvenue au château.
Non, on se moque, mais en fait pas du tout, parce que le château de Cheverny, il est dans votre famille depuis 6 siècles, c'est ça ?
Le domaine. Château est plus récent.
Oui.
Il y en avait un précédent. Une forteresse. Bon. Et là, c'est un château d'époque classique. Donc, le château définitif, voilà, on l'a sous les yeux.
Tout le monde connaît votre château.
Bah oui.
Je ne crois pas.
Non,
c'est ça le challenge.
Tout le monde l'a déjà vu.
Tout le monde l'a déjà vu.
Sans l'avoir visité.
On sait qu'on a encore beaucoup de visiteurs potentiels. Ça,
tout le monde
dire.
L'a déjà vu parce que, en fait, c'est le château qui a inspiré Hergé pour le château de Moulinsart.
Vu sous cet angle-là, voilà. Je vous donne raison.
Et Sabor.
Exactement. OK.
Voilà. 450 000 visiteurs par an. Moi, la première question qui me venait à l'esprit, est-ce qu'on arrive à équilibrer les comptes et même à se payer à vivre avec 450 000 visiteurs ?
On arrive à équilibrer. En fait, on doit avoir un comportement de chef d'entreprise. Mmh. On ne touche, je dis quasiment aucune subvention.
Quasiment.
On touche certaines subventions de la part du ministère de la Culture. Mmh. Et comme Cheverny est un édifice classé, en fait, c'est donc le ministère de la Culture, donc sa délégation régionale, la DRAC, qui valide absolument tous les travaux. Et en quelque sorte, le montant des subventions, ça correspond peu ou prou à ce que vous n'auriez pas fait seul. Et en gros, ce que la DRAC souhaite que vous fassiez en plus, je le souligne, pour le bien du monument, et ils ont à chaque fois raison, ça correspond un peu au montant des subventions.
Ce qu'on a peut-être oublié de dire en préambule, c'est que vous faites partie des châteaux de la Loire.
On fait partie des châteaux de la Loire. On a peut-être dû commencer par ça. Voilà. Le Val de Loire est une destination touristique et chaque monument, chaque site du Val de Loire apporte sa petite spécificité, quelquefois sa grosse spécificité.
Mais vous faites partie du top 5 des châteaux qu'on visite avec Chenonceau et 2-3 autres.
Tous les chiffres qui circulent, en fait, on peut pas les accréditer tous. Hein, on les connaît pas. On doit faire partie, du top 5 ou du top 3. Top 5. Allez, entre 5 et 3, peut-être 3, c'est génial.
Ça ne vous ennuie pas visiblement d'avoir cette étiquette Tintin, quelque part, étiquette Hergé.
On peut en être fier.
Vous en êtes fier, d'accord.
On en est fier.
Parce que s'il n'y avait pas cette étiquette, est-ce qu'il y aurait 450 000 visiteurs ?
Il y en aurait sans doute moins.
Ouais, d'accord.
Mais le château de Cheverny a vécu seul pendant un certain nombre d'années, et puis quand il a eu la possibilité de s'associer, de se rapprocher de son modèle, qui lui est le château le plus célèbre de la BD, ça pouvait être que pour le meilleur.
Vous cherchez quand même à innover régulièrement, même pour un château classique, puisque vous renouvelez l'expérience Tintin avec un autre partenaire cet été, cette fois c'est avec Lego, vous allez reproduire les châteaux de la Loire
c'est
avec
tout
Lego.
À fait autre chose. Tintin, on l'espère l'avoir pour l'éternité. On l'a depuis 2001, on l'espère l'avoir pour l'éternité.
Il n'y a aucune raison.
Mais attention, l'image de Tintin et l'œuvre de Tintin ne nous appartient pas. Elle appartient
aux émotions. Où sont cachés les bijoux de la Castafiore alors ?
Je ne vous le dirai pas. Pour des questions de sécurité, je ne peux pas le dévoiler.
Tout à fait. Pour répondre à la question du Lego ?
Voilà. Alors, pour répondre à la question du Lego, tout simplement, donc l'expo Tintin, elle vit sa vie dans un endroit spécifique, dédié dans les communs du château. Et par contre, les Lego, ils sont sur le circuit de visite du château. Et dans notre notre recherche de satisfaire la gamme de clientèle la plus large, et en particulier celle des familles et des enfants, on a estimé que le côté Lego pouvait également apporter quelque chose d'encore plus ludique à la visite. Et là, ça va être à Renaissance à Cheverny, donc décliné en Lego.
Charles-Antoine de Vibré, le propriétaire du château de Cheverny, dans sa famille, ou en tout cas le domaine, depuis 6 siècles et quelques-uns encore, on espère. Hein,
j'espère. Souhaite.
Et vous dormez là-bas ?
Bien sûr.
D'accord.
À Cheverny, pas Moulinsart.
Très bien, monsieur Châtelain. Merci d'être venu jusqu'à nous. Cette chronique est à retrouver, hein, pour votre plus grand plaisir et notre plus grand plaisir, sur RTL.fr, avec la complicité d'un héros de BD, Jean-Baptiste Giraud.
C'est toi, Milou.
Là, c'est Milou, oui. D'EconomieMatin.fr.
RTL, le choix du grand soir.
Le choix d'RTL Grand Soir avec Sophie Camoun qui nous rejoint. Bonsoir à vous, ancienne grande nageuse, on peut le dire.
Bonsoir.
Nageuse olympique, Sophie.
Il y a bien longtemps, oui.
Il y a bien longtemps. Aujourd'hui, vous occupez de la destinée de grands champions. Yannick Agnel, la meilleure nageuse française en ce moment, Charlotte Bonnet.
Charlotte Bonnet, Fantine Le Saffre, championne d'Europe aussi. Mehdi Metella, qui a battu la meilleure performance mondiale sur 100 mètres papillon ce week-end au championnat de France.
Excusez du peu.
Et Maxime Grousset, la petite pépite, le vice-champion du monde junior du 50 mètres.
Et hier soir, autour de Paris, vous avez présenté un programme assez passionnant pour les jeunes qui s'appelle Nageurs et Citoyens, ce qui veut dire qu'il faut apprendre à nager. Ça, on le fait généralement dans les écoles, habituellement dans toutes les écoles, non ?
Le programme on est censé le faire dans les écoles.
On est censé le faire.
Mais malheureusement, ça ne se fait pas toujours très bien, parce que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont très loin des piscines, que avec le temps passé dans les transports, dans les vestiaires, finalement, ouais. Au bout du compte, quand on va à la piscine, on y reste 10 minutes ou un quart d'heure. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant pour apprendre à nager.
C'est pour ça que ces enfants qui n'ont pas la possibilité d'avoir une piscine à côté d'eux, à côté de leur maison, eh bien, on privilégie ces enfants-là pour les amener vers la piscine aujourd'hui. On leur apprend à nager plus vite que les autres.
Exactement. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait un enfant sur deux qui en rentrant au collège ne savait pas nager et que ces chiffres étaient encore plus dramatiques dans les quartiers défavorisés et aussi dans les endroits où effectivement les piscines sont situées très loin des écoles primaires et des domiciles des enfants. Donc effectivement ce sont ces enfants-là qu'on privilégie dans ce programme Nageurs et Citoyens pour leur apprendre à nager, pour qu'ils deviennent totalement autonomes dans l'eau, tout simplement pour des raisons de sécurité.
Vous commencez à Paris mais on aurait pu commencer peut-être dans le sud ou sur le bord de l'Atlantique, là où il y a la mer ou l'océan.
Effectivement, on a commencé à Paris.
C'est pas une critique, mais c'est pour, parce qu'il y a les bébés nageurs dans ces régions-là qui fonctionnent très très bien.
Oui.
Mais c'est vrai que les enfants qui sont au bord de l'eau, c'est...
Je crois qu'un peu partout en France, de toute façon, beaucoup d'enfants ont besoin d'apprendre à nager. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se monter en ce moment. Mais je crois qu'il n'y en aura jamais assez pour que tous les enfants de France apprennent à nager. Alors c'est vrai que pour l'instant, en cette première année, on fait cette opération Nageurs et Citoyens dans 3 villes d'Île-de-France, dans 3 départements différents. Mais l'objectif, c'est bien évidemment de développer ce programme et que pourquoi pas en faire un programme national d'ici à 2024.
Mais de mémoire, ça remonte à très très longtemps. Quand on était petit, je parle pour moi, hein, Sophie, vous inquiétez pas, Sophie Camoun, on allait à la piscine, c'était une obligation, non ? C'était même une épreuve au bac, il fallait traverser toute cette grande piscine pour nous tout petits.
C'est une obligation, mais si vous discutez avec des gens autour de vous qui ont des enfants, ils vous diront tous que l'école n'a pas suffi pour apprendre à nager dans la majorité des cas. La plupart, on en discutait hier justement avec ces 4 nageurs de l'équipe de France. Mehdi Metella me disait, moi j'ai appris à nager avec ma maman. Maxime Grousset, qui est un nageur de l'équipe de France, disait, nous, moi pareil, c'est grâce à la famille que j'ai appris à nager. Ah oui. Donc on se rend compte que finalement, l'école, c'est bien pour commencer l'apprentissage, mais c'est pas suffisant pour nager dans des conditions parfaites de sécurité.
Vous parlez des champions, ils étaient là, ils ont apporté leur savoir. Hein. Beaucoup de bienveillance sur ces enfants pour cette opération Nageurs Citoyens. Isabelle Langer est venue à votre rencontre et à la rencontre des nageurs. Et justement, elle a rencontré la meilleure nageuse française du moment, Charlotte Bonnet.
C'est des enfants qui n'ont jamais pu aller à la piscine de leur vie parce qu'ils habitent souvent très loin, que c'est compliqué, que ça coûte un peu cher l'inscription aux écoles de l'eau et aux bébés nageurs. Donc c'est l'occasion pour eux aujourd'hui de nouer un peu avec ça, avec le milieu de l'environnement de la piscine, de nous voir, de nous rencontrer, d'être à l'aise avec nous. Et voilà, j'espère qu'on va leur transmettre un petit peu le goût de l'eau et le plaisir de venir à la piscine.
Charlotte Bonnet, tout comme les autres champions qui ont même offert à tous les enfants, un petit cadeau de bienvenue, c'est quoi ? C'est les lunettes, le petit bonnet qui va bien ?
Oui, on offre le matériel, maillot, bonnet, lunettes, sac, serviette, aux enfants, de façon à ce qu'ils puissent, parce que pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils n'ont pas encore de maillot de bain, donc voilà, pour qu'ils puissent être équipés pour leur premier plongeon.
Mais merci aux ambassadeurs et à votre initiative, Sophie Camouna, parce que ça vous tenait à cœur, je le sais, et ça fait toujours quelques petits sourires, quelques petites réflexions de gens heureux.
C'est qu'en fait, j'arrive pas trop à nager, mais avec la frite, j'arrive.
Voilà, la petite Léna qui a nagé avec la frite. Voilà, dans les deux sens du terme. Avec, oui, c'est vrai. Avec cette petite sécurité en plus et ce sourire, quoi, avoir la frite.
Oui, et puis le sourire aussi sur les quatre nageurs de l'équipe de France. C'est Yannick Agnel, le parrain de cette opération. Je peux vous dire qu'on avait des grands enfants aussi dans la piscine hier.
On a toujours des grands enfants et ça nous fait du bien. Exactement. Sophie Camoun, merci. Ça s'appelle Nageurs et Citoyens. Ça va se développer un petit peu partout. Lancement a eu lieu hier, tout simplement, en région parisienne. Merci mille fois, Sophie Camoun.
Merci à vous.
Bonne brasse, bon crawl, bonne nage indienne, ce que vous voulez. J'ai droit à nage indienne ?
Vous avez de tout. Oui, tout du moment que vous revenez au bord.
Ça va, merci à vous. La musique du Grand Bain, bien sûr, pour terminer. Merci encore, Sophie Camoun. Il est grand temps, 22h30, sur RTL, de retrouver... Ah oui, Caroline Dublanche est en vacances,
et
alors
oui.
Mais oui, mais oui, voici monsieur Christophe Fauré pour oui. Parlons-nous ce soir.
Bonsoir, bonsoir Christophe. De Christophe à Christophe, ça devrait bien se passer.
Ouais, Chris à Chris, c'est bien.
D'accord.
Jusqu'à 1h du matin, un ouais. seul et même numéro de téléphone, pas de taxe, c'est gratuit, je vous le donne. Hein.
Oui, allez-y.
J'ai l'habitude. C'est mon métier, Caroline, habituellement.
Exactement, allez-y, allez-y.
09 69 39 10 11. Pour Parlons-nous, on a tellement de choses à se dire.
Mais c'est bien, vous devriez faire de la radio, vous.
Ouais, ouais. Ou prendre ma retraite, je sais pas, j'hésite. Christophe Fauré, en tout cas.
Oui.
Vous êtes le meilleur pour ce soir, jusqu'à 1h du matin sur RTL.
Merci beaucoup.
Bonne nuit à vous.
Belle nuit.